Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Hors Case, une émission consacrée à la communauté LGBTQIA+, mais pas que. Tout le monde peut l'écouter, il ne faut pas faire partie de la communauté pour pouvoir écouter. Et alors ce soir, nous avons une invitée spéciale. On a invité la fondation Isan Charfi. Et alors pour présenter cette émission, j'ai Valérie.
Bonsoir.
Et alors notre invitée, c'est Danae Kaikuji.
Bonsoir.
Danae, est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi la fondation Isan Charfi ?
Alors, je suis la directrice et coordinatrice de la fondation. Je suis juriste de formation, diplômée de l'ULB. En fait, j'ai été marquée très jeune par le meurtre d'Isan, donc en 2012. Ma mère, qui est journaliste judiciaire, m'avait permis en fait, de suivre la cour d'assises. J'étais en sixième secondaire, j'ai consacré du coup mon travail de fin d'humanité à la fondation, en fait en imaginant un projet de bande dessinée retraçant la vie d'Isan. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Hassan, le papa d'Isan et la famille d'Isan. Son témoignage m'a vraiment profondément touchée. Et le projet de bande dessinée en fait est resté en suspens parce que j'ai commencé mes études de droit, mais le destin m'a ramené sur le chemin de la fondation quelques années plus tard, où je m'investis maintenant à plein temps. En ce qui concerne la fondation Isan Charfi, c'est une fondation de droit privé belge. Elle a été créée le 6 février 2014 avec le soutien de la ville de Liège. Elle est née en fait du coup suite au meurtre homophobe d'Isan, qui a été enlevé, tué, assassiné et torturé en avril 2012 à Liège. Et alors, depuis sa création, on œuvre à perpétuer la mémoire d'Isan et on lutte contre l'homophobie, la transphobie et toutes les formes de discrimination.
On est bien d'accord que dans le cas du meurtre d'Isan Charfi, on peut parler d'assassinat à caractère homophobe.
Oui, tout à fait. Il s'agit bien d'un assassinat à caractère homophobe. Le procès a démontré que l'orientation sexuelle d'Isan avait motivé les agresseurs, ce qui a bouleversé toute la Belgique, la France aussi, la société civile. La circonstance aggravante en fait, d'homophobie, c'est une disposition légale qui alourdit les peines lorsqu'un crime ou un délit est commis en raison de l'orientation ou de l'identité de genre de la victime. Ou même, au même titre en fait, que le racisme, l'antisémitisme... les féminicides. Le meurtre d'Isan a eu un impact direct du coup, sur l'évolution de la loi belge, parce qu'en 2013, la liste des circonstances aggravantes prévues par le code pénal a été élargie afin d'y inclure explicitement les crimes motivés par l'homophobie. Donc oui, ce drame a contribué à renforcer la protection des victimes d'homophobie.
Ok, donc tu veux dire qu'avant ce drame, l'homophobie, l'homophobie ou la LGBTQIA+phobie n'était pas reprise dans la loi, ou oui ?
La LGBT-phobie, oui, mais c'était dans la liste des discriminations, mais ce n'était pas une circonstance aggravante.
Okay. Et circonstance aggravante, ça veut dire quoi ? Que la peine sera plus lourde,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça, okay. Tout à fait.
D'accord.
Est-ce que, donc, de ce qui s'est passé pour Isan Charfi, on en a fait un film, Animals, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film ? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, et donc je risque de poser des questions un peu naïves, mais je ne l'ai pas vu volontairement, parce que autant je peux regarder des films d'horreur ou je sais quoi, mais des films inspirés d'une histoire vraie, je n'arrive pas, en fait, c'est trop pour moi.
Mais en fait, je ne l'ai pas vu totalement non plus, pour vous dire. Parce que oui, en fait, donc, le film Animals, d'ailleurs pour l'anecdote, en fait, on dit... le film, il porte le titre Animals parce que c'est comme ça qu'un des assassins c'est justement pas qualifié, enfin ne s'est pas auto-qualifié d'Animals, à place de dire on n'est pas des animaux, il a dit on n'est pas des Animals, pour montrer un peu voilà, le niveau. Et donc Nabil Benyadir, le réalisateur, a eu l'idée du coup de mettre ce titre-là. En fait, il s'inspire directement du meurtre d'Isan, mais c'est totalement indépendant de la fondation. Donc c'est voilà, une initiative personnelle du réalisateur, même s'il y a eu évidemment des rencontres avec la famille pour que ce soit ben, voilà, le plus cohérent possible. C'est une œuvre en fait extrêmement dure, parfois insoutenable. Voilà, c'est une intensité qui est nécessaire en fait pour rendre la violence compte de la violence du crime. Mais nous pensons que ceux qui souhaitent le visionner devraient être accompagnés en fait, devraient être accompagnés tant les images peuvent être insoutenables. C'est ce qu'on conseille en fait aux éducateurs, aux professeurs qui nous demandent.
J'imagine dans le milieu scolaire ou des
c'est ça, en milieu scolaire. Il arrive que le corps académique nous demande s'il faut préparer l'intervention d'Hassan, notamment en visionnant le film préalablement. Voilà, nous, ça dépend l'âge déjà, parce que le but, c'est pas non plus de traumatiser aussi les jeunes LGBT qui pourraient vouloir faire leur coming out et qui seraient justement traumatisés par le film. Donc voilà, on le conseille pas spécialement, ou alors en tout cas encadré, c'est-à-dire avec à la suite un accompagnement des élèves.
En tout cas, moi je l'ai vu, et c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont insoutenables. Il y a des moments où je me suis demandé si j'allais pas quitter la salle, quoi, ouais. Tellement effectivement il faut qu'il soit accompagné.
Oui, c'est ça.
Voilà quoi.
Mais il y a plusieurs, le drame des scènes, il a inspiré plusieurs créations artistiques. Donc il y a par exemple la fresque murale d'Anté Amissi justement à Bruxelles. Il y a une pièce de théâtre de 1000 euros qui s'appelle La Reprise. Il y a récemment un ballet de Sidi Larbi Cherkaoui à Genève.
Ah, wow.
Oui, un ballet qui s'appelle Issan à Genève. Vraiment magnifique. Et alors, bien sûr, Animals. Donc, ça montre à quel point l'histoire d'Issan a marqué la société et continue en fait, de nourrir la réflexion collective.
Okay. Oui.
Au niveau des missions de la fondation, vous pouvez nous en dire plus, parce que sur le site elles sont citées, mais ce serait bien qu'on en parle.
Donc en fait, voilà, nos missions, notre mission principale, c'est lutter contre l'homophobie, la transphobie, toutes les formes de discrimination. Et en fait, on vise à promouvoir, comme on dit, sur le site, c'est dans des termes plus généraux, mais le dialogue interculturel et intracommunautaire. Le soutien des victimes à travers un accompagnement social, juridique, psychologique et en matière de logement. Mais en fait, concrètement, en fait, le cœur de nos missions au niveau de la sensibilisation, on va dire, on peut distinguer deux volets, la sensibilisation et l'aide aux victimes. Au niveau de la sensibilisation, c'est le cœur de l'action, c'est Hassan Jarfi qui est sur le terrain, donc le père d'Issan, qui consacre sa vie à témoigner dans les écoles. Donc c'est un ancien professeur de religion islamique à Liège et ancien représentant des mosquées en Wallonie. Et ils rencontrent en fait chaque semaine une centaine d'élèves de secondaire pour leur raconter son histoire, les sensibiliser à la tolérance. Son témoignage, en fait, il est marquant, il est profondément humain, on ne peut pas remettre en cause un témoignage. Il a en plus, il ouvre en fait un dialogue avec les jeunes, il a la pédagogie, c'est un ancien professeur, il a son âge, il a un postulat de grand-père. Et en fait, il arrive à aborder les questions sensibles comme la sexualité et la religion. Et c'est vrai que souvent, c'est des questions sous-jacentes des professeurs, en fait, des demandes. Mais voilà, c'est de diriger quand même le dialogue sur la religion, vu qu'il a sa légitimité, en fait, qui manque des fois chez certains professeurs pour aborder ces thématiques complexes. Et ça, elle y arrive vraiment bien. Donc, c'est ça qui fonctionne très bien. Parce que d'ailleurs, je dis souvent, on n'a jamais même cherché une école tellement les écoles nous interpellent et nous redemandent chaque année. En parallèle, la Fondation organise plusieurs événements. Donc, on a une marche commémorative en mémoire des victimes d'homophobie et de transphobie. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu le 28 septembre 2025 à Gand. Donc on réunit citoyens, associations autour d'un message de paix, d'unité. On a aussi le Challenge Arfi, créé en 2023. C'est un tournoi de foot organisé en collaboration avec le RFCL Liège et l'ASBL Liège Sport. Donc en fait, c'est ben voilà, le foot, le monde du foot, c'est un monde qui peut être très viril, homophobe, macho, mm-hmm. c'est ça. Que ce soit dans les tribunes, que ce soit dans les vestiaires. Mais c'est aussi le football, principalement parce que ben voilà, c'est plus populaire comme sport en Belgique. C'est aussi un lieu d'éducation. On dit toujours, il y a l'école, il y a la famille, et puis bah, il y a le foot, c'est avéré. Donc c'est un bon moyen de sensibiliser, d'atteindre les jeunes. Et donc en fait, les jeunes, ils viennent, c'est hors saison, donc c'est-à-dire que c'est en été, ils viennent premièrement pour jouer en fait, pour revenir, pour aller sur le terrain, il fait beau, ils vont rencontrer d'autres clubs, élites ou amateurs, mixtes, donc c'est chouette aussi pour eux. Et en fait, tout au long de cette matinée, ils ont des ateliers de sensibilisation, donc un match, un atelier, avec des témoignages d'Hassan, mais plus, là c'est pas comme dans les écoles. Dans les écoles, ça dure une heure et demie, c'est quand même voilà, en profondeur, avec le visionnage d'une vidéo. Ici, c'est vraiment plutôt une table ronde avec aussi des émérites du football, donc des joueuses ou joueurs pros qui viennent raconter leurs témoignages. Et alors, on s'associe à chaque fois avec une ASBL qui vient faire des exercices plutôt alors ludiques sur les termes LGBT. Cette année, c'était avec Prisme. Et ça s'est vraiment très bien passé. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, les jeunes, ils viennent avec des a priori. On les entend parler du brassard, notamment arc-en-ciel, qu'ils ne veulent pas porter.
Ils ne veulent pas porter pourquoi ?
Ben justement, il n'y a pas... C'est des jeunes, vraiment, ils 14 ou 15. Quand on creuse, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de fondement dans leur argument. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une représentation. Et malheureusement, ben voilà, si leurs joueurs préférés ne veulent pas porter le brassard, ben ils vont répéter simplement ça. Et puis si à la maison on ne déconstruit pas et qu'on renforce en plus cette idée, ça n'aide pas. Quand on leur explique, parce qu'ils disent alors c'est la promotion de l'homosexualité, quand on leur explique que c'est plutôt non, justement le soutien, l'inclusion, etc., avec des termes plus vulgarisés, ben, ils comprennent quand même, ils sont assez ouverts et ils jouent le jeu. Et au final, ils repartent tous avec leur médaille arc-en-ciel, leur coupe arc-en-ciel, le sac... Challenge Arfi. Donc, c'est une de nos activités qui est très concrète parce qu'on voit le changement directement, on voit qu'il y a des petites graines qui ont été posées directement. Alors que voilà, il y a d'autres activités où il faut alors plutôt avoir un recul, un feedback, comme par exemple les interventions d'Hassan. Mais on sait que ça a marqué, mais la charge émotionnelle est très forte, il y a des élèves qui pleurent. Mais alors il faut revenir après, ou alors il faut avoir encore un contact avec les professeurs pour voir s'il y a eu vraiment un changement. Dans la classe ou des questions qui sont soulevées. Alors que là, le challenge, c'est voilà, c'est directement et ça nous donne de l'espoir.
Pardon, juste pour revenir sur parce que tu reparlais justement de la sensibilisation au milieu scolaire. La demande vient de l'école parce qu'il y a un souci en classe oui. ou dans l'établissement, ou vous envoyez un programme à toutes les écoles et il y a une réaction de leur part ou pas?
En fait, ça dépend. Soit c'est dans le cadre de journées spécifiques, journée de la citoyenneté, ou alors au niveau au moment de la Pride Week. Il y a eu en effet un problème dans la classe, au sein de la classe, ou beaucoup de problèmes dans une école. Parce que souvent, c'est plusieurs classes. Il ne vient pas pour une classe, enfin, sauf des exceptions, mais c'est souvent plusieurs classes, c'est l'initiative de plusieurs profs qui s'arrangent. Et donc, parce que ça se prête bien son témoignage, même s'il y a un grand nombre. En fait, il met une vidéo qui est une espèce de compilation de reportages de l'époque, devoirs d'enquête, mille et une nuits. Donc déjà, ça l'aide à ne pas devoir répéter à chaque fois les circonstances du drame. Et aussi, en plus, ça aide à être plus ben voilà, visuel, parce que ça reste quand même des jeunes où, au final, ben 2012, c'est il y a longtemps pour eux, donc ils n'ont pas vécu en même temps, enfin, ils n'ont pas vécu au moment du procès. Mais ça ne change rien, la charge, c'est comme si ça s'était passé hier, parce qu'il y a le papa, il est là, il est devant, il y a l'humain, il y a le reportage, et puis après, en fait, il met des vidéos de souvenirs d'enfance, d'Issan, qui joue au Maroc, et ça aide aussi à s'attacher ben voilà, à Issan, et à se projeter, et à créer du lien, en fait. D'ailleurs, il appelle cette vidéo « Une famille comme la vôtre », et ça aide beaucoup, notamment, ben justement, avec... le côté ben, où on voit Issan au Maroc, avec des traditions liées à sa culture. Et donc, à la fin aussi, on voit d'autres vidéos aussi plus âgées, parce qu'ils s'en aimaient bien se filmer, rigoler, le théâtre. Et donc, ça, c'est vraiment assez touchant. Au niveau de nos missions, on a aussi qui est le colloque. En fait, on fait chaque année un colloque annuel avec l'Université de Liège. Et on consacre ce colloque à une thématique précise. En fait, cette année, d'ailleurs, c'était l'homophobie dans le sport. Et donc, on invite des experts et expertes en la matière. Là, c'est un public plus académique. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de professionnels, on va dire. Oui, c'est vraiment d'autres ASBL, des avocats, la police. Il y a beaucoup de membres de la police qui viennent voir. Ou alors, en fonction de la thématique, ben, ça change. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme parce qu'on a des intervenants assez chouettes. D'ailleurs, cette année, du coup, il y a un rugbyman de France qui est venu pour l'occasion. Donc, c'était vraiment chouette d'avoir son témoignage. Parce que le rugby, ben voilà, c'est aussi un sport, surtout à l'image, la virilité. Donc voilà, par rapport à nos missions. Et alors, on a un gala annuel, mais ça, c'est plus une autre manière de récolter des fonds propres, en fait. Gala caritatif, le prochain, et le 5 décembre, à l'Orchestre Philharmonique. En fait, chaque année, on change de partenaire culturel, toujours les mêmes, mais il y a un roulement entre le forum, l'opéra, le théâtre, et ici, l'Orchestre Philharmonique.
Ok. Et moi, j'aimerais bien revenir aussi sur la première des actions. Tu as parlé du soutien aux victimes, donc sous quelle forme? Mais ça veut dire que quoi? Je suis victime de lesbophobie et je vous contacte. Vous avez un numéro d'urgence, il y a un service social, il y a un service juridique. Et comment ça s'organise, en fait?
Donc ici, voilà, ici on arrive justement dans le deuxième volet. Donc on est dans le premier volet, vraiment sensibilisation. Il y a encore des choses à faire où on peut encore avoir un impact. Ici, c'est vraiment, on a un impact, mais c'est vraiment l'aide aux victimes. C'est-à-dire qu'on arrive trop tard. On nous donne souvent... Enfin, le projet, c'est le refuge de Sainte-Jarfi, qu'on accueille les jeunes LGBT en rupture familiale pour cause d'homophobie ou de transphobie. Et donc, en fait, c'est un refuge qui est né en 2019. C'est une volonté, en fait, de répondre à un besoin urgent, offrir un toit et un accompagnement aux jeunes LGBT. Il a été inspiré du modèle français, qui est une grosse structure. Nous, on a accueilli une soixantaine de jeunes depuis 2019. Et en fait... Quand je dis on arrive fort tard, c'est parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a un retour dans les familles possible, parce que le but c'est pas d'écarter le jeune justement et de l'isoler de sa famille, mais on arrive tellement tard que ce serait même le remettre en danger. Malheureusement, les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment subi des grosses violences physiques, psychologiques, thérapie de conversion. Ils le disent pas avec ce terme. Mais nous, on arrive à cibler en les rencontrant et en les écoutant. Et en fait, ils rentrent par plusieurs canaux. Soit ils nous ont connus grâce aux témoignages d'Hassan dans les écoles, soit nos événements, soit par l'intermédiaire d'assistants sociaux, d'éducateurs, du CPAS, parce qu'on travaille en collaboration avec le CPAS de Liège. C'est super important, cette collaboration pour tout l'accompagnement de nos jeunes. La maison arc-en-ciel, on a beaucoup de jeunes qui vont à la maison arc-en-ciel. Voilà, c'est une institution tellement connue, même en dehors de la communauté, que c'est souvent une des plus premières portes. Et alors, en fait, quand c'est comme ça, on a aussi un numéro d'urgence disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, rappelable si on n'a pas... Et en fait, dès qu'on a le premier contact avec le jeune, on lui demande l'âge, parce que là, la condition, c'est quand même entre 18 et 25 ans.
Mmh. Donc, pas les mineurs.
Pas de mineurs, parce que tout un autre accompagnement, tout un autre système. Il s'agit vraiment plus du tout le même modèle qu'on a, même s'il y a énormément de demandes aussi dans les mineurs. Et donc, en fait, le jeune... ben, on le rencontre directement, la journée même, on fixe une rencontre, et on essaie d'évaluer déjà aussi l'urgence. S'il n'a pas de solution pour la nuit même, ben, on sait déjà que nous, on a un partenariat avec l'auberge de jeunesse, et en fait, c'est ça la première étape. On a une première étape, c'est l'auberge de jeunesse. Si le jeune rentre dans les conditions, et comment on sait s'il rentre dans les conditions, ben là, c'est simplement lui demandant. Et la rupture familiale pour cause d'homophobie ou de transphobie, ben c'est une enquête, entre guillemets, sociale qu'on fait simplement en parlant. Et on se rend vite compte ben par des termes, mais on a vraiment un fil rouge. Si c'est attesté, on l'accueille à l'auberge de jeunesse. Et là, on entame déjà les démarches administratives parce que chaque jeune a ses demandes, ses besoins par rapport à son histoire. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, ils arrivent, ils n'ont plus pas de carte d'identité. Les parents ont gardé, ont jeté les diplômes. Alors là, c'est plus compliqué, mais bon, voilà. Ou alors, il faut faire des démarches judiciaires. Enfin, voilà, ça dépend. Mais ça s'entame déjà dans ce moment d'urgence, qu'on dit logement d'urgence, qui dure une quinzaine de jours. Et c'est aussi une façon de créer un lien avec le jeune, parce que ben voilà, comme ça, on a aussi un lien de confiance pour ne pas mettre une personne qui pourrait être un danger pour les autres jeunes du refuge. Une fois que cette occupation à l'auberge est passée, on l'accueille alors dans le refuge, qui est l'hébergement de transition, qu'on appelle ça. C'est un appartement, une capacité de 7 jeunes. Et alors, c'est un bail de 3 mois renouvelable, 1 an maximum. Mmh. Et bien, tout ce parcours, il y a un accompagnement, on a une éducatrice, en fait, qui l'accompagne, que ce soit du point de vue administratif, du point de vue de la recherche de logement, de travail, l'accès aux soins de santé mentale, notamment. Et donc, voilà, c'est des jeunes, même s'ils sont majeurs, ils n'ont tellement pas eu de repères sains, et tellement de traumatismes qu'ils ont besoin de recréer, d'être accompagnés, vraiment, même de créer et de leur apprendre l'autonomie, de leur apprendre toutes les bases, l'autonomie financière. Mais on travaille avec à chaque fois des partenaires, on a un réseau de partenaires, c'est-à-dire que l'éducatrice, elle n'est pas psy en même temps et médecin.
Tu ne peux pas être au four, au moulin et en cuire le pain, quoi.
Non, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, notre objectif, il est clair, c'est vraiment éviter que des jeunes qui sont déjà fragilisés basculent dans l'exclusion, le sans-abrisme, parce que c'est ça, quand je dis on arrive tard dans les violences, c'est vrai, mais par contre on arrive en amont du sans-abrisme. S'il n'y a pas la solution du refuge, c'est la rue. Et on est déjà, il y a eu beaucoup de cas aussi, ou alors il y a eu un passage dans la rue juste avant d'aller au refuge. Ça complique l'accompagnement. On voit vraiment qu'une fois qu'il y a eu un passage dans la rue, c'est encore plus de violence, encore plus de traumatisme.
Mais les premières violences, ce sont des violences intrafamiliales.
Intrafamiliales.
Donc c'est pas à l'extérieur, c'est
non,
pas. Ok.
Intrafamiliales.
D'accord.
Pour laisser le temps à nos auditeurs de digérer toutes ces informations super importantes, je vous propose de passer au petit gars de Suzanne.
Comment tu vas leur dire, ça fait des jours que tu ressasses. Un dimanche en famille, ton père sera assis à sa place. Il te dira, ça va mon fils, t'as pas l'air, ton assiette. Alors dis-nous, ce qui cette fille que t'es fait tant tourner la tête. Entre l'entrée et le rôti, tu vomiras la grande nouvelle. Tu répondras,
papa, cette fille, c'est Samuel.
Mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe, que tous les plans ont refroidi. Ton père devient tout blanc, t'avais prédit le scénario. Encore plus blanc que la crème qui fond sur le gâteau. Tu leur as coupé l'appétit, ils digèrent tous le gros ragot. Imaginez, le fils prodige est un homo. Ils te regardent tous comme un inconnu, planté là dans le salon. Alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon. T'es gêné, t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pédé. pas d'un type comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, tire à tourner dans des boîtes à pédales, dans des bacs room sales. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fière d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali, ne me dis pas, t'as pas choisi. Des baffes en plus, aurait servi, mon fils est mort aujourd'hui. Tu croiseras des gendarmes qui traiteront de petites baltringues, des anciens potes qui se demandent si tu les matais à l'époque. Une foule en t-shirt rose et bleu qui te regardera comme un lépreux. Fais pas d'enfant, c'est contagieux, pense à ce que dira Dieu. Tu te feras passer à tabac, tabasser sur le boulevard gratuitement par trois lascars. T'es comme une clope sur le trottoir. Petit gars, reste droit sous le poids de la bêtise. Petit gars, n'écoute pas ce que ces gens disent. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime.
Et nous sommes de retour dans l'émission Orcaz avec notre invitée qui est la fondation Issane Charfi et qui est représentée par Danaï. Alors, la question suivante, c'est est-ce que vous bénéficiez, parce que vous êtes implantée à Liège, est-ce que vous bénéficiez d'un soutien local, régional, de la ville de Liège, de partenaires spécifiques ou moins spécifiques ?
Oui, tout à fait. C'est surtout pour le projet du refuge, du coup. On va dire que c'est ça, le projet subsidié. Tout ce qui est sensibilisation, c'est fort. Voilà, encore partenariat en arrangement avec l'université, le RFCL, qui est vraiment un acteur incontournable, nos partenaires incontournables pour le challenge. Et on a un petit peu des fonds propres au moment du gala. Donc ça, c'est vraiment pour financer notre sensibilisation au niveau du refuge. On a un soutien de la ville de Liège, de la région wallonne, donc du SPW, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a un mécène et, comme je disais, nos fonds propres.
Moi, j'avais encore une petite question par rapport au refuge. Qui c'est qui compose votre équipe du refuge ? Tu as parlé d'une éducatrice. Est-ce qu'il y a d'autres profils ?
Non, on est donc dans l'équipe de la fondation, on n'est que deux.
Waouh.
Donc, moi, je m'occupe responsable de projet, juriste, community manager. Et ma collègue, elle est employée administrative et éducatrice au refuge.
Okay.
Donc, on a vraiment plusieurs casquettes.
C'est-à-dire des pieuvres, là.
Oui, là, on est beaucoup de casquettes. Voilà, là, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est récent qu'on vient d'augmenter le nombre de capacités. Ça a toujours été 5. Maintenant, on vient d'augmenter à 7 parce que pour la première fois depuis 2019, on a eu constamment, depuis mars, des demandes. Donc, il n'y a pas eu... Parce que des fois, c'est par période. Ça ne s'explique pas vraiment. Mais là, c'est resté constant. Donc, est-ce qu'il y a eu une augmentation des violences, banalisation de la haine ? Est-ce qu'il y a eu, nous aussi, nos services qui ont été de plus en plus connus à force de rencontrer, d'aller sur le terrain, de rencontrer des partenaires, d'éventuels partenaires ? Est-ce que c'est un peu des deux, sûrement ? Mais en tout cas, le constat est là. Oui, on a une forte demande de jeunes, malheureusement, de jeunes victimes. Donc, on a augmenté à 7. Donc, voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe dans les faits.
Ok. Et ces jeunes qui viennent, ils viennent de quel milieu ? Est-ce que, je veux dire, on peut être caricatural, c'est des gens qui n'ont qui ont peu d'éducation, ou c'est des familles qui sont d'origine, qui ne sont pas belges, ou enfin voilà, c'est un peu quel type de jeunes, ou alors c'est, je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent d'un milieu universitaire qui sont victimes de discrimination dans leur famille?
Oui, oui. Eh ben justement, c'est une question qu'on nous pose quand même souvent, parce que ben voilà, notamment cette question, elle découle aussi notre expertise entre guillemets qui est liée en fait à Hassan sur les questions de religion et en particulier la religion musulmane du coup. Et oui, c'est vrai que au niveau des interventions, on a souvent des attentes de professeurs au niveau de cette communauté de par simplement le statut et la légitimité d'Hassan. Mais dans toutes nos autres missions de sensibilisation ou au refuge, on ne voit pas de prédominance liée à une religion quelconque ou même pas de religion du tout. C'est-à-dire qu'en fait, dans le refuge, nos jeunes, ça arrive souvent que les parents ne sont pas religieux, c'est simplement ça ne se fait pas, c'est la gêne, c'est pas naturel. Et, ou alors d'autres religions, religions, oui, catholiques, et toutes. Donc on n'a vraiment pas de prophètes spécifiques du tout. Il y a un peu plus d'hommes gays, beaucoup aussi de jeunes qui font leur transition au moment du refuge. Mais parce que voilà, c'est un moment où ils sont en sécurité. Enfin voilà, c'est dans la pyramide, l'essentiel, c'est d'être en sécurité. Après, ils commencent à se questionner sur leur orientation et leur identité. Mais à la base, ils n'ont même pas, en fait, possibilité de se questionner dans leur milieu, quand ils étaient dans leur milieu familial. Donc, il y a tout un questionnement, toute une déconstruction, une construction au moment de l'occupation, au refuge, aussi rencontrer les autres, parler avec les autres, rencontrer la communauté. C'est des jeunes qui, en fait, n'ont pas été encore intégrés dans la communauté, qui ne savent pas, qui se questionnent, ne savent pas eux-mêmes, en fait, aussi tous les renseignements qu'ils peuvent avoir, tous les accès aux soins, les accès aux traitements. Donc voilà, il y a tout un... Mais sinon, on n'a pas... non. Il y a eu des milieux universitaires. Oui. Tout à fait. Il y a de tous les milieux, malheureusement. Mais bon, c'est quand même vraiment des profils particuliers de parents. C'est-à-dire que c'est vraiment défaillant. Extrême. Oui.
D'accord. Est-ce que dans tout ce que tu nous as dit, il y aurait des projets ou dont tu auras envie vraiment de parler ou de mettre sous le feu des projecteurs ou un truc qu'on a oublié de parler, tu vois?
Mais j'en ai un peu parlé quand je me suis présentée. C'était la bande dessinée. Donc en fait, oui, comme je disais, j'avais eu un projet de bande dessinée, mais c'est dans le cadre de mon travail de fin d'humanité. Au final, ça n'a pas abouti. Mais c'est un projet qui me tient à cœur et qui fait sens maintenant. Mais voilà, maintenant que je travaille effectivement à la fondation, que j'ai d'autres outils que qu'être étudiante en secondaire, d'autres contacts, et surtout que là on se pose vraiment la question de la nécessité de cette bande dessinée. Donc on travaille actuellement à la concrétisation de ce projet. En fait, c'est une bande dessinée qui retracerait la vie d'Issane. J'avais été en fait choquée par la bande dessinée Joe de Derib, une bande dessinée qui abordait le sida, qui avait choqué toute une génération des années 80-90. Et c'était un peu ça que je voulais retrouver, un côté où on s'attache au personnage et où on se rappelle, en fait. On se rappelle des années après, j'ai lu cette BD. Et ça faisait sens parce que c'est ce qu'Hassan, à travers son témoignage, fait ressentir aux jeunes, en fait. Combien de fois on m'a dit « Ah, il est déjà venu dans la classe de ma sœur, il y a des années. » Et donc, on voulait garder aussi une trace de ça, de l'impact d'Hassan. Et donc, ce serait une bande dessinée qui retrace la vie d'Hassan, sa famille, la déchirure, le drame, mais aussi l'après, en fait. L'après, la fondation, le papa, le refuge. Et à la fin, mettre un carnet pédagogique avec tous les contacts des ASBL, les termes, les lexiques, ça qu'on travaillerait évidemment en collaboration avec une autre ASBL. Il y a beaucoup d'ASBL qui font bien mieux ça que nous, dans la vôtre. Mais nous, on y mettrait aussi les questions-réponses en fait, récurrentes d'Hassan avec ses élèves. Et donc là, on aurait une trace, parce que les questions, elles deviennent, à force 12 ans de rencontres avec les jeunes, elles deviennent récurrentes. Ça devient des questions, c'est souvent sur la vengeance. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de vengeance après par rapport aux assassins? Comment il l'a appris à l'époque? Et Hassan, il est très honnête. Quand il vient, il explique toute sa déconstruction et son travail, son cheminement, mais aussi la réaction qu'il a eue à l'époque. Il n'essaie pas de changer l'histoire, sinon ça n'a pas d'impact pédagogique et de sensibilisation. Et donc ça, c'est pour garder une trace, parce qu'il n'est pas immortel, personne ne l'est. Il est tous les jours sur les routes, à la rencontre des jeunes. Et voilà. Et c'est aussi pour donner un outil, justement, pour un outil quand on part, qu'on laisse une bande dessinée, laisser des bandes dessinées dans les bibliothèques des écoles. C'est un projet, en tout cas, qui nous tient à cœur et que nous espérons qu'il verra le jour.
Et pour qu'il voit le jour, il faudrait quoi?
Niveau financier?
C'est certainement ça. Je pense que c'est ça l'air de la guerre, puisque vous avez tout. Vous avez l'histoire, vous avez...
Mais c'est ça, l'avantage. C'est ça que je présente aussi, du coup, quand je demande au pouvoir public ou à un potentiel mécène, sponsor. C'est que on a... Mais on a le storytelling, on a l'histoire vraie, on a les proches, on a la légitimité, on a la fondation, ce serait un partage de risques, on a la fondation, c'est un projet de la fondation. Mais on a aussi tous les potentiels intéressés par l'outil, parce qu'on a déjà notre répertoire d'école. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut c'est... trouver, c'est le monde de l'édition, c'est le monde, le nerf de la guerre, l'argent. Et puis c'est un projet qui crée une bande dessinée, ça prend du temps une fois qu'il sera lancé. Donc le premier, là, on est dans la première étape, c'est vraiment chercher un financement.
Donc soit un mécène, soit un sponsoring.
Souvent c'est un peu des deux en fait, c'est un peu des deux, oui.
Okay. Ouais. Donc, si vous nous entendez que vous avez des envies de dépenser de l'argent que vous avez et
beau projet, qui restera, c'est ça qui... Une bande dessinée, ça reste. Et puis, c'est un outil. Bon, on est en Belgique quand même, on a notre expertise, la bande dessinée. Enfin, moi, je suis convaincue par cet outil ludique qui pourrait vraiment prêter... à la sensibilisation des adolescents. On s'adapte aussi au monde actuel. Il y a des webtoons, c'est une façon coréenne de faire, de mettre la bande dessinée sur une longue page en continu sur les smartphones. Donc ça peut se prêter tout à fait.
Vous avez même pensé jusque ça.
Ah oui, il faut.
Et les traditionnelles bibliothèques aussi.
Ça c'est les premiers.
Ok. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Si ça se concrétise, nous, tel quel, on sera preneurs et preneuses.
Nous aussi, notamment, du coup, pour le carnet pédagogique, le dossier à la fin du livre.
Oui, tout à fait. Et de manière concrète, comment est-ce qu'on peut vous joindre un numéro de téléphone, une adresse mail, des heures d'ouverture, de permanence de...
Ouais. On a un site, le site général de la fondation, mais aussi un juste pour le refuge, vraiment pour se dire quand on tape refuge, on le trouve pour les victimes. On a un numéro, le numéro du coup de téléphone d'urgence est devenu aussi le numéro secrétarial, c'est le numéro comme ça qu'on garde actif. Et c'est le 04 79 15 87 44. Il est référencé sur nos sites, nos réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, WhatsApp, du coup. Et alors, au niveau de l'adresse mail, mon adresse mail, c'est coordination@fondation-issan-jarfi.be. Et alors, on a aussi une adresse refuge où il faut juste rajouter refuge. @fondation-issan-jarfi.be.
Ok, merci beaucoup Danaë d'être venue et nous avoir présenté la fondation Issan Jarfi, tout ce qu'elle fait et ainsi que le refuge, qui sont vraiment, je pense, que l'air de rien, deux choses, je ne vais pas dire deux outils, mais deux, deux associations hyper importantes, quoi. Enfin, et malheureusement, enfin, j'aurais tellement aimé qu'il n'y ait pas de fondation Isiane Zarfi, qu'il n'y ait pas de décès, quoi. Ce serait tellement mieux. Mais bon, voilà, c'est bien de tirer... Enfin, je trouve que c'est tirer une force d'un drame, et je trouve ça beau, en fait, comme fondation. Merci beaucoup d'être venue, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci Valérie pour cette émission.
Bah, merci Mélanie, merci Danaï.
Merci à vous.
Et on se revoit, enfin on s'entend le mois prochain, et on se dit à bientôt, bonsoir.
Bonsoir.
À bientôt.
Orcase, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.